Merci beaucoup, merci Didier de cette invitation et merci de, depuis quelques années, de choisir des dates qui me permettent de vous souhaiter encore légitimement une heureuse année. Voilà, à toutes et à tous. Je tiens beaucoup à ce calendrier parce que ça me permet de,
voilà, ouais, déjà excellente,
de vous rencontrer et de vous souhaiter cette année. Voilà, donc quelques remarques sur le travail de Foucault sur la question du système pénal, en fait. Voilà. Avant 68, le travail de Michel Foucault porte essentiellement sur des questions relatives aux conditions et aux formes de la connaissance. Donc, des travaux sur la théorie de la connaissance, on pourrait presque dire l'épistémologie, et particulièrement dans les sciences humaines. La thèse qu'il a soutenue en 1961 est intitulée « Folie et déraison, Histoire de la folie à l'âge classique ». Et un peu plus tard, il publie « La naissance de la clinique, une archéologie du regard médical ». Voilà les deux grands premiers textes de Michel Foucault. Un peu plus tard, en 1966, année de grande effervescence de la pensée en France, 66, il contribue avec Gilles Deleuze à l'édition française des œuvres complètes de Nietzsche et il publie le très important essai, qui est son premier essai qui sera célèbre, « Les mots et les choses », et qui porte toujours sur les questions de conditions de la connaissance. En 1968, il est à Tunis, mais il fait plusieurs séjours en France, plusieurs allers-retours vers la France. Michel Foucault est de ceux pour lesquels la mobilisation populaire sans précédent des mois de mai et juin 68 va entraîner des conséquences décisives, non seulement dans leur rapport à la politique, mais aussi dans leur itinéraire de pensée. Mai 68 a profondément affecté, infléchi, bouleversé les objets, les méthodes, les pratiques et les interlocutions qui vont, pendant des années, animer la recherche et la pensée et qui l'animent encore, pour certains, plus rarement. Voilà. C'est tout particulièrement le cas donc pour Foucault qui, durant ces années, va engager un travail qui reste pour tous une référence sur les questions touchant aux délits et aux peines, à ce qu'on appelle la politique pénale, et partant de là, sur l'évolution, évidemment sur l'actualité des formes d'exercice du pouvoir, ce qu'il désignera plus tard comme les formes de la gouvernementalité. Ce sont les résultats de ce travail sur les peines, les délits, les peines et la politique pénale. Ce sont les résultats de ce travail que Foucault va rassembler et exposer dans le livre dont parlait Didier, qui compte encore, « Surveiller et punir », qui sera publié en 1975. Alors, ce qui m'a intéressé, ce qui est intéressant, je crois, et sur quoi Foucault s'est beaucoup exprimé lui-même publiquement et explicitement, c'est que la publication de ce livre a été précédée d'au moins 5 années de travail et d'engagement intense concernant la situation des prisons dans la France de l'époque. Voilà, il s'est beaucoup exprimé sur ces années-là. Donc 70-75. Je propose d'exposer rapidement ces longues années de travail à partir des articles, interviews, entretiens, interventions, conférences que Foucault a produit, écrit et prononcé durant cette séquence. Ces travaux y sont très heureusement publiés dans deux tomes énormes, de gros volumes, et en particulier dans le premier de ces tomes, de ce qui est intitulé « Dit et écrit » de Michel Foucault, qui ont été collectés, c'est un énorme travail, puis publiés en 2017 par Daniel Defferre et François Ewald, avec la collaboration donc, de Jacques Lagrange, tout ça dans la collection Quarto aux éditions Gallimard. Donc le tome 1 comprend les textes des années 1954-75 et le tome 2 les textes de 76 à 88. Je propose donc de vous soumettre quelques notes de lecture et quelques remarques sur ces années d'intervention et de travail concernant la pratique judiciaire et la situation des prisons. Ces remarques articuleront deux aspects. D'une part, les découvertes et les réalités, les thèses que Foucault a établies et exposées au cours de ce travail, d'une part, et d'autre part, les méthodes qui ont permis d'arriver à ces résultats. Et ces deux aspects sont bien sûr profondément liés, et c'est leur lien qui a donné et donne encore au travail de Foucault, à ce moment-là, je crois, son sens et son importance. Donc voilà, les résultats, les situations, les observations et les méthodes adoptées pour y parvenir. L'année 70, alors quelques éléments historiques rapides, l'année 70 est marquée par d'importants conflits politiques qui opposent essentiellement, d'une part, le régime présidé par Georges Pompidou depuis le départ de De Gaulle en avril 69, et d'autre part, des mobilisations populaires et des réseaux militants qui revendiquent en fait une fidélité qu'on pourrait dire radicale à la mobilisation de mai 68. Signe de cette conflictualité politique vraiment intense, vous le savez sans doute déjà, le journal « La cause du peuple » est interdit en mai 70. L'organisation maoïste qui le publiait, la gauche prolétarienne, est dissoute. La cause du peuple est interdite en mars 70. L'organisation la gauche prolétarienne est dissoute au mois de mai suivant. Et un peu plus tard, après une audience de 9 heures, Michel Lebris et Jean-Pierre Le Dantec, directeurs de publication de la cause du peuple, sont condamnés à 8 mois et 1 an de prison. Enfin, la loi dite anti-casseurs est adoptée en juin. Voilà, pour donner une sorte de chronologie de ce que pouvait être cette année 70. La diffusion du journal La cause du peuple devient alors, malgré son interdiction et malgré la dissolution de la gauche prolétarienne, la diffusion du journal devient l'enjeu d'une bataille d'opinion et de manifestations de rue. C'est, vous le savez sans doute aussi, il y a des vidéos là-dessus, des actualités en fait, des archives. C'est le moment où Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir vont fonder l'association des Amis de la cause du peuple et participeront à la direction et à la diffusion du journal. C'est à cette occasion qu'ils vont se faire même arrêter pour contrôle d'identité. Donc, voilà, ils n'avaient pas reconnu Sartre ni de Beauvoir. Dans cette période, plus de 200 militants vont quand même être emprisonnés. La répression est à ce point sévère qu'une organisation est créée pour les protéger politiquement et juridiquement, le Secours Rouge. À l'automne de cette année 70, certains des militants emprisonnés entament une grève de la faim pour obtenir le statut de prisonnier politique. Et en octobre, Le physicien Alain Gesmard, dirigeant du mouvement de mai 68, puis de la gauche prolétarienne, est à son tour condamné par la Cour de sûreté de l'État. Et suite à son incarcération, les militants emprisonnés entament une seconde grève de la faim pour dénoncer cette fois leurs conditions de détention ainsi que celles des détenus de droit commun, ce qui est important. Au même moment, j'en ai presque fini avec ces quelques indications historiques pour donner un peu l'horizon du travail de Foucault à ce moment-là. Au même moment, une cellule clandestine, l'Organisation des prisonniers politiques, est créée parmi les militants clandestins désormais de la gauche prolétarienne, l'Organisation des prisonniers politiques, à laquelle participe Daniel Defer, le compagnon de Michel Foucault. C'est suite à ces mobilisations, voilà, que Foucault, Jean-Marie Domenac, à l'époque directeur d'Esprit, et Pierre Vidal-Naquet créent le groupe d'information sur les prisons, GIP, dont le texte fondateur sera signé par plusieurs intellectuels, dont Jean Genet, Claude Mauriac, Gilles Deleuze. Le GIP se développe largement et rapidement à l'échelle du pays et de façon volontairement très décentralisée. Il diffuse un questionnaire auprès des familles et parvient même à le faire parvenir aux détenus. C'est ce que le GIP appelle une enquête en fraude. Les résultats de l'enquête sont rendus publics lors de nombreuses interventions, réunions, conférences, puis publiés dans un livre, Enquête dans 20 prisons, publié en 71 aux éditions Champ Libre. Puis, considérant que les détenus se sont finalement donné leurs propres moyens d'expression et de mobilisation, le GIP s'auto-dissout en décembre 72. Voilà. Alors, quelques remarques sur les résultats de ces années de recherche, de rencontres, de débats, d'interventions. Il y aura trois remarques pour cette étape. Premièrement, Michel Foucault travaille et intervient d'abord, je vous le disais, mais dans l'élan des grèves de la faim, etc., il intervient d'abord sur les conditions de détention des prisonniers. Bon, elles sont matériellement pénibles, souvent vexatoires et humiliantes, parfois brutales, excédant ce qui est prescrit et prévu par le droit. Foucault et le GIP rendent public, à ce moment-là, un rapport accablant que le docteur Edith Rose, psychiatre des prisons, a adressé à René Pleven, garde des Sceaux de l'époque, et au président du Conseil de l'Ordre des médecins, suite à des mutineries qui ont en partie saccagé la prison de Toul en décembre 71. C'est au cours de cette période que Foucault mobilise systématiquement le terme qui est donné comme titre à l'un des textes que vous avez. C'est à ce moment-là qu'il mobilise le terme d'intolérable pour parler de la situation des prisons et qu'il multiplie les appels à partager son intolérance. Voilà, il désigne l'enquête entreprise par le GIP comme une enquête d'intolérance. Non, pardon, une enquête tiret intolérance. Une enquête intolérance. Ça, c'est le premier point, conditions de détention. Deuxième remarque, le travail de Foucault, bien sûr, ne se limite pas à la dénonciation des mauvais traitements infligés aux détenus par l'administration pénitentiaire. Très vite, Foucault s'interroge sur le rôle et le sens de la prison dans le système pénal, dans la politique gouvernementale de la France contemporaine et plus généralement dans les représentations qui circulent à l'époque au sein de la société. Le rôle de la prison dans le système pénal. Il commence par s'étonner de l'importance de l'emprisonnement dans la politique pénale de l'époque. En 1972, il y a en France, c'est lui qui le dit dans un des textes écrits, il y a en France à l'époque 30 000 détenus pour une population de 50 millions d'habitants. L'inquiétude de Foucault se justifie d'autant plus qu'on comprend aujourd'hui qu'en bon historien, il avait en fait parfaitement pris la mesure d'une tendance qui s'est effectivement confirmée. Il est en effet intéressant, je crois, de noter que le nombre des détenus est aujourd'hui de 72 836 pour une population de 68 millions d'habitants. Autrement dit, depuis la période à laquelle Foucault écrit, le nombre des détenus a plus que doublé, ce qui est évidemment loin d'être le cas de la population générale. Et comme l'on sait, les gouvernements successifs annoncent très régulièrement l'augmentation des places de prison. Le manifeste du GIP, dont je vous parlais tout à l'heure, leur texte de fondation, écrit « On nous dit que les prisons sont surpeuplées, point, mais si c'était la population qui était suremprisonnée, point d'interrogation. » C'est donc dans les 10 écrits, tome 1, c'est page 1042. Ça, c'est la deuxième remarque, l'étonnement de Foucault sur le volume de l'emprisonnement et la place qu'il occupe dans la politique pénale de l'époque, indépendamment des conditions de détention. Troisième remarque, la question qui se pose est évidemment celle de savoir mais quel est le sens et quel est l'enjeu de ce développement de ce volume d'emprisonnement. Dans un entretien publié dans un magazine allemand en mars 72, Foucault tient à rappeler l'importance que cette question a prise pour lui à ce moment-là. Mais pourquoi ? Pourquoi l'emprisonnement et pourquoi à cette échelle-là l'emprisonnement ? Il dit à ce moment-là, c'est pour moi une des énigmes que posent les poursuites pénales en Occident à propos de l'emprisonnement. C'est ce qu'il appelle le grand enfermement. Et pour répondre à cette question, il va donc interroger l'histoire du châtiment, l'histoire des châtiments, des peines et des politiques pénales, pour essayer de comprendre le fait qu'on est arriver à cette curiosité qui est le volume de l'emprisonnement dans la France des années 70. Alors, on trouve une sorte de résumé de l'interrogation de Foucault sur l'histoire des châtiments et des peines et des politiques pénales. On trouve un résumé dans le texte que je vous ai que j'avais sélectionné. Donc c'est un entretien accordé dans un journal de Genève, « Je perçois l'intolérable ». Et c'est là une sorte de résumé, d'esquisse de l'histoire du système pénal qu'il va développer en 1975 dans « Surveiller et punir ». On le lit rapidement. Donc le journaliste lui demande « Michel Foucault, vous m'avez demandé de ne pas vous poser de questions ayant trait à la littérature, à la linguistique et à la sémiologie, c'est-à-dire à son travail précédent en réalité. Toutefois, j'aimerais que vous effectuiez un lien rapide entre vos préoccupations passées et l'action dans laquelle vous vous engagez actuellement. » Et Foucault répond, « J'ai constaté que la plupart des théoriciens qui cherchent à sortir de la métaphysique, de la littérature, de l'idéalisme ou de la société bourgeoise, donc c'est en 71, n'en sortent point, et que rien n'est plus métaphysique, littéraire, idéaliste ou bourgeois que la manière dont ils essaient de se libérer de ces théories, des théories. Moi-même, autrefois, je me suis penché sur des sujets aussi abstraits et loin de nous que l'histoire des sciences, ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, je voudrais en sortir réellement. En raison de circonstances et d'événements particuliers, mon intérêt s'est déplacé sur le problème des prisons, et cette nouvelle préoccupation s'est offerte à moi comme une véritable issue au regard de la lassitude que j'éprouvais face à la chose littéraire. Cependant, je retrouve là une continuité que j'aurais aimé rompre. En effet, dans le passé, j'avais essayé d'analyser le système d'internement en vigueur dans notre société au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc c'était les asiles, la folie, y compris l'hôpital. D'un point de vue général, on peut s'amuser. Voilà l'histoire des châtiments, c'est là que ça arrive. D'un point de vue général, on peut s'amuser à classer les sociétés en différents types. Il y a les sociétés exilantes. Lorsqu'un groupe ou un corps social ne supporte pas un individu, il le rejette. C'est un peu la solution grecque. Jadis, les Grecs préféraient l'exil à toute autre peine, donc l'ostracisme. Il y a aussi les sociétés assassinantes, torturantes ou purifiantes, qui soumettent l'accusé à une sorte de rituel punitif ou purificatoire. Alors ça, c'est l'âge classique. C'est ce qui va aller jusqu'au supplice de Damien au XVIIIe siècle, donc après la tentative d'assassinat de Louis XV, donc un truc absolument horrible. Donc ça, c'est les sociétés torturantes, d'une certaine manière. Et enfin, les sociétés enfermantes, telles que l'est devenue notre société dès le XVIe et le XVIIe siècle. À cette époque, les normes sociales et économiques ont été posées à la population, à la fois par le développement de l'appareil d'État et par celui de l'économie. Notre société a commencé à pratiquer un système d'exclusion et d'inclusion, l'internement ou l'emprisonnement, contre tout individu qui ne correspondait pas à ces normes. Dès lors, des hommes ont été exclus du circuit de la population et en même temps inclus dans les prisons. Ces lieux privilégiés qui sont en quelque sorte les utopies réelles d'une société. L'internement avait pour but non seulement de punir, mais aussi d'imposer par la contrainte un certain modèle de comportement ainsi que des acceptations, les valeurs et les acceptations de la société. Voilà, le reste est peut-être moins important. Bon, voilà, ça, il développe un petit peu, voilà, et ça va jusqu'au groupe d'information sur les prisons. Alors, juste le dernier paragraphe, la dernière réponse de Foucault, nous voudrions, littéralement donner la parole aux détenus. Notre propos n'est pas de faire œuvre de sociologue ni de réformiste. Il ne s'agit pas de proposer une prison idéale. Je crois que, par définition, la prison est un instrument de répression. Son fonctionnement a été défini par le Code Napoléon il y a environ 170 ans et a relativement peu évolué depuis. Alors, nos sociétés contemporaines seraient donc, selon la formule de Foucault, des sociétés enfermantes. Mais cette fois encore, le travail de Foucault ne se réduit pas uniquement à faire ce constat. Donc pas seulement historique, mais ni même d'ailleurs à s'en indigner. J'allais dire pas seulement politique, d'une certaine façon. Ni seulement historique, ni seulement politique. En philosophe, cette fois, Foucault s'interroge sur l'objectif, l'enjeu, le sens de cette forme moderne de la politique pénale. Donc, emprisonnement et inclusion, exclusion, exclusion de la société, inclusion dans les murs de la prison. À mesure de ses interventions et travaux, il s'efforce donc d'en développer une analyse, cette fois-ci au sens philosophique du terme. Cet enfermement général a, selon lui, plusieurs caractéristiques qui mérite d'être interrogé et réfléchi. J'en isole donc quelques-uns. La peine, premier point, la peine infligée au coupable n'est donc plus comme fin XVIIe ou jusqu'au XVIIIe, n'est donc plus la souffrance physique cruelle que, jusqu'au XVIIIe, le bourreau fait subir au corps qui a commis l'acte délictuel. Dans l'époque de l'enfermement, la peine devient, comme il le dit là, celle de l'exclusion. Autrement dit, la transformation du châtiment, telle qu'elle est systématiquement organisée et développée au cours du XIXe siècle, est donc bien radicale. Radicale. La preuve la plus sensible de cette transformation de la peine, de sa conception et de son application, la preuve la plus sensible en est que la peine cesse d'être un spectacle de cruauté auquel le public est invité à assister. Le pouvoir de punir et d'infliger la peine, comme l'individu puni lui-même, ne sont même plus visibles, mais au contraire, l'un et l'autre, le pouvoir de punir et la victime de la punition, enfin celui qui est puni, sont rigoureusement rendus invisibles. Ce qui fait en effet une différence remarquable. La prison est un ailleurs absolu, quasi secrète, auquel pratiquement personne n'a accès. Je peux juste témoigner, je donne des cours à la maison d'arrêt de Rouen à deux jeunes qui portent, pour un hasard, les prénoms de Mohamed et Mamadou. Et c'est vrai que c'est très étonnant quand on fréquente, je l'ai fait l'an dernier, je le refais cette année, c'est vrai que c'est très étonnant de découvrir un ailleurs à ce moment-là, dans l'entrée dans la prison. On découvre un ailleurs quasi secret auquel pratiquement personne n'a accès. Ainsi, ce n'est plus le spectacle de la souffrance qui est considéré comme dissuasif, mais la menace de l'exclusion qui va, d'une certaine manière, jusqu'à la menace de l'invisibilité imposée, infligée, comme une forme de disparition civile. Ça, c'est le premier point dans l'évolution de la peine. Alors, ce qui explique cette évolution majeure, deuxième point, ce qui explique cette évolution majeure, c'est, là encore, mais pourquoi ? Pourquoi ce passage du supplice à l'emprisonnement? C'est que la peine d'enfermement et d'exclusion n'a en réalité plus pour objectif de satisfaire le désir de vengeance de celui qui a subi un tort ou une offense, qu'elle soit d'ordre matériel, physique ou moral. Il n'est plus question de vengeance, comme c'était le cas du temps du supplice. À partir de cette observation, Foucault va donc franchir une nouvelle étape dans la recherche des objectifs, des raisons, du sens de l'enfermement et de l'exclusion. S'il ne s'agit plus de vengeance, s'il ne s'agit pas seulement, pas tant, ou on pourrait dire pas même, ou même pas, de payer une dette et à la victime du délit et à la société, comme le propose Beccaria en un sens encore. Si ce n'est pas de cela qu'il s'agit, d'une dette à payer ou à un individu ou à la société, la décision de la privation de liberté pose la question de savoir, mais alors, quel est son objectif? Quelle est son utilité? Y compris sociale, et quelle est finalement sa rationalité? Quelle est sa rationalité? Le problème devient en ce sens celui de la légitimité juridique et sociale, de la légitimité, rationalité, légitimité de cette peine devenue pourtant si fréquemment prononcée. C'était déjà la question que posait Beccaria, la rationalité, la légitimité des peines, le théoricien italien du droit de la fin du XVIIIe. dont l'œuvre des délits et des peines, qui était inspirée des philosophes français des Lumières, dont l'œuvre a beaucoup intéressé Michel Foucault, il en parle régulièrement. Opposé à la peine de mort et à la cruauté du supplice, donc ayant passé à l'arrière de ses préoccupations le siècle du supplice, qu'il juge et la peine de mort et le supplice, l'un et l'autre, également sans effet dissuasif, en réalité, trop ponctuel, etc., Beccaria préconisait déjà l'incarcération, y compris d'ailleurs associée au travail forcé. Et il projetait surtout de donner, en fait c'était surtout ça, c'était pas tellement l'incarcération son objectif que ce dont on parlait tout de suite, à savoir le projet de donner au système pénal une forme de rationalité. Rationalité quasi mathématique. C'était ça le projet profond de Beccaria. C'est pour ça qu'il trouvait la peine de mort, l'exécution et le supplice irrationnel, passionnel, etc. Et donc, finalement, peu efficace au sens social du terme. Alors, Beccaria concevait la pratique judiciaire comme une opération quasi syllogistique. Voilà, ça se passait comme ça. L'accusé a commis tel délit ou tel crime. Or, deuxième proposition, la loi prévoit de punir ces délits et ces crimes de telle ou telle peine. Donc, conclusion du syllogisme, l'accusé doit y être condamné. Voilà, il faut que ça se passe de façon logique, quasi mathématique. La rupture que propose Beccaria est telle, et intéresse à ce point Foucault, que dans un entretien avec un journaliste tunisien, puisque je vous disais, il est passé un moment à Tunis, il va jusqu'à dire « il nous faudrait un nouveau Beccaria ». En tout cas, donc, quelque chose qui nous permette de nous interroger sur le système pénal de l'emprisonnement, les sociétés dites enfermantes, comme Beccaria s'était interrogé sur le système du châtiment, de la torture et du supplice. Le problème que rencontre Foucault très vite, c'est que la conception de Beccaria du système judiciaire et pénal ne suffit évidemment pas à régler la question de la rationalité ou de la légitimité générale des condamnations, et pour ce qui nous intéresse, nous, ici, celle de la légitimité de la décision d'emprisonnement. En effet, indépendamment des questions d'établissement des faits eux-mêmes, c'est pas si simple, l'accusé a commis ceci ou cela, encore faut-il le prouver. Indépendamment de la question de l'établissement des faits, y compris en cas d'aveu, évidemment, y compris en cas d'aveu, ce que sont bien que les aveux eux-mêmes ne sont pas toujours à prendre à la lettre, il reste, comme on sait, des questions d'intention, de responsabilité et de circonstances atténuantes ou aggravantes. Et Foucault fait l'hypothèse que la juste reconnaissance de ces dimensions, qu'on pourrait dire subjectives, du délit ou du crime, aurait pu favoriser ou créer les conditions d'instauration et de développement de la politique contemporaine de grand enfermement qu'il observe et qu'il a un moment considéré comme une énigme, en fait. Il est possible que ce soit dans la dimension subjective à laquelle Beccaria ne fait pas suffisamment attention, en fait. Alors, remarque suivante, si la prison n'est pas seulement, ni même d'abord, le lieu et le moment Donc, du traitement rationnel, rigoureux, du délit. Elle n'est pas non plus, c'est ça qui la rend décidément énigmatique. Donc c'est pas payer une dette, c'est pas une vengeance, c'est pas tout à fait l'application rationnelle d'une mathématique de la peine, d'une certaine façon. Et elle n'est pas non plus, comme on l'entend souvent dire, un lieu de rééducation. Nouvelle remarque de Foucault qui augmente encore son questionnement. De nombreuses enquêtes et études indiquent plutôt, mais dès son instauration, que la prison devient un lieu et un moment, parfois et souvent, d'entrée dans la délinquance. L'hypothèse que Foucault développe, alors, dans les interventions et les travaux de ces années 70-75, est que, à partir du 19e siècle, ce n'est finalement pas tant l'acte lui-même qui justifie la peine, le châtiment, mais l'individu qui l'a commis, autrement dit, la punition d'enfermement, ne vise pas tant un acte, mais une personnalité considérée comme dangereuse et condamnée à être exclue pour sa dangerosité plus que pour ce qu'il a commis finalement. D'où l'importance des dimensions subjectives, l'intention, la responsabilité, etc. Ça permet à Foucault de poser que c'est probablement parce que la punition ne concerne plus tant un acte, mais une personnalité, donc considérée comme dangereuse, et condamnée et exclue pour sa dangerosité. La question qui motive la condamnation, c'est ce que Foucault finit par poser, la question qui motive la condamnation à l'emprisonnement, à l'exclusion, n'est pas tant celle de savoir ce que l'accusé a fait, mais qui il est. D'une certaine façon, la dangerosité a redoublé la délinquance au point de tendre à s'y substituer. La prison traite la dangerosité, ne traite finalement pas la délinquance. Elle l'a redoublé au point de tendre à s'y substituer. Foucault relève à ce sujet l'importance qu'a prise dans la procédure judiciaire ce qui est officiellement désigné comme l'enquête de personnalité. Je voulais vous dire que il y a un film actuel qui est très intéressant et très impressionnant sur ce point. C'est le film Saint-Omer. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez l'occasion. C'est vraiment très intéressant parce que c'est un procès sur, l'enquête de personnalité. Enfin, sur la question de la personnalité et pas seulement sur l'acte, puisque vous savez, il s'agit d'un acte d'abandon, finalement, d'enfanticide. Voilà. Et c'est vraiment un film intéressant. C'est un film très troublant qui...
C'est l'affaire d'Outreau.
Non, c'est pas Outreau. Non, c'est une affaire à Saint-Omer. C'est une femme qui dépose un enfant sur la plage et qui vise à la noyade, en fait. Quoi. Voilà. Et c'est un film intéressant, vraiment. Alice Diop qui fait le film. Alors voilà, ce serait finalement là l'un des motifs profonds de la place majeure prise par l'enfermement dans la politique et le système pénal contemporain. La prison ne répond finalement pas tant à la fonction de punir, paradoxalement, mais à celle de surveiller, d'où le titre « Surveiller et punir ». Elle ne vise ni ne traite pas tant la délinquance, je vous disais, que la dangerosité présumée, voire préjugée, des individus. La société de l'enfermement est en réalité, voilà ce à quoi Foucault finit par arriver, une société de contrôle. Alors, étape suivante, point suivant, Cette réflexion quant à la fonction de la prison dans le système judiciaire et pénal contemporain va conduire Foucault à une dernière réflexion, une ultime réflexion. Il pose en effet progressivement l'hypothèse que l'enfermement et l'exclusion est le témoignage, la forme en quelque sorte condensée dont le pouvoir s'exerce, la façon condensée dont le pouvoir s'exerce dans les sociétés contemporaines. Voilà. L'exercice du pouvoir ne relève plus d'abord, comme c'était le cas jusque dans la période classique, dans la répression. Il cite par exemple les grands massacres de paysans révoltés en Bretagne, en Aquitaine, etc. Le pouvoir ne s'exerce plus sur ce mode-là, mais sur le mode du contrôle des individus, des corps et des consciences. Depuis la fin des régimes monarchiques, dit Foucault, l'essentiel pour le pouvoir ou l'essentiel du pouvoir ne consiste plus à garantir l'exécution des décrets féodaux, l'enrôlement des hommes pour la guerre, la soumission, le travail forcé, le prélèvement de l'impôt, etc. Dit qu'en réalité, l'essentiel du pouvoir consiste à permettre la soumission à des normes de conduite et de pensée que les puissances dominantes, économiques, politiques, idéologiques, religieuses, ont besoin d'imposer. Voilà. La prison rappelle et matérialise ce qu'il en coûte, non peut-être pas tant de commettre tel ou tel acte, mais ce qu'il en coûte de ne pas se soumettre à cet ordre, non seulement civil, mais aussi et peut-être surtout idéologique et au sens large, moral. C'est selon Foucault ce qui explique l'usage très important qui est fait, et c'est encore le cas, de la prison à titre préventif. D'une certaine façon, la prison précède et en un sens prescrit la peine, parce que beaucoup de détenus finissent par être condamnés à une peine correspondant à leur détention préventive, en fait. La prison précède et en un sens prescrit la peine qui est finalement prononcée par l'autorité judiciaire. C'est aussi, selon lui, ce qui explique que le passage par la prison pèse si lourd dans la vie des personnes qui y sont condamnées, en particulier les jeunes. C'est la raison pour laquelle le groupe Information Prison avait demandé dans son manifeste la suppression du casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire, c'est plus que la conséquence de l'acte, c'est la dangerosité en réalité. Et voilà que le supplicié autrefois était marqué par le supplice, mais là le détenu ou l'ancien détenu est marqué par ce passage par la prison d'une certaine façon. Alors la mise en évidence, voilà les caractéristiques et voilà d'une certaine les caractéristiques de l'emprisonnement comme peine nouvelle d'une certaine manière et un peu exorbitante comme ça qui étonnait Foucault. Voilà les caractéristiques de cette peine et voilà petit à petit les explications que Foucault en propose. La mise en évidence de ces caractéristiques du système pénal contemporain ont conduit Foucault alors à un certain nombre d'interrogations à partir de là et d'hypothèses auxquelles je vous propose de consacrer un dernier moment de cet exposé. Tout d'abord, Foucault précise que cette fonction de contrôle qu'il a fini par comprendre d'une certaine manière, en tout cas qu'il propose, est très largement, profondément exercée par d'autres institutions que la prison. Et là, l'affaire commence à avoir une autre ampleur d'une certaine manière. D'autres institutions. Il cite en particulier l'institution militaire, bien sûr, mais aussi les institutions sanitaires, en particulier celles qui sont consacrées aux maladies dites mentales, et enfin les institutions scolaires. Dans tous les cas, dit-il, le pouvoir ne s'exerce plus sous la forme de la violence et de la répression physique ou morale, mais sous celle de l'injonction à respecter et intérioriser les normes et les règles imposées par le pouvoir, sous peine de subir une forme d'exclusion interne, d'inclusion sociale dans l'incarcération, en tant qu'exclu. Et il relève que chacune des autres institutions qu'il a citées ont leur propre système de punition, d'une certaine façon, et même leur propre prison. On sait que là, il y a les prisons de la caserne, il y a même d'une certaine manière les prisons de la prison, ou la prison de la prison, voilà, sous la forme de l'isolement. Et puis, on sait aussi que les institutions sanitaires ou l'institution scolaire ont, d'une certaine façon, leur propre forme de juridiction, de punition, voire de contrainte. Et c'est ce que Foucault finit par désigner et décrire comme un système punitif. Voilà, un système punitif. Le pouvoir, puisque cette réflexion devient finalement une réflexion sur le pouvoir, l'exercice du pouvoir, le pouvoir s'exerce comme pouvoir non seulement de dicter des normes, mais aussi et surtout de décider souverainement de l'inclusion ou de l'exclusion sociale des individus en fonction de leur aptitude ou de leur zèle à respecter les normes et à s'y soumettre, d'où la dangerosité. C'est ainsi que, selon Foucault, nos sociétés contemporaines deviennent ce qu'il appelle des sociétés de surveillance. C'est cette hypothèse qui va l'amener à s'intéresser à une proposition qui est emblématique de cette transformation du système pénal et de l'exercice du pouvoir, parce que l'un finalement est emblématique de l'autre. C'est là aussi une proposition soutenue à la fin du XVIIIe siècle par le philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham. Alors avant ça, je ne sais pas si on a le temps, je proposais de lire ce que dit Foucault dans le deuxième texte. Donc c'est un texte plus tardif, de 73, qui est un texte sur lequel, qui est un texte vraiment intéressant. C'est là il répond à un journaliste, le journaliste d'une revue allemande, avec lequel manifestement il est un petit peu en délicatesse, quoi, mais il répond ça. On vit, c'est Foucault qui commence, là j'ai sélectionné à ce moment-là, on vit dans un système punitif. C'est cela qu'il faut mettre en question. La prison en elle-même n'est qu'une partie du système pénal, et le système pénal, ce qu'on vient de voir, n'est qu'une partie du système punitif. Cela ne servirait à rien de réformer le système pénitentiaire sans réformer le système pénal et la législation pénale. Mais il faut bien que la législation ait à peu près cette forme, s'il est vrai que la stabilité de la société capitaliste repose sur tout ce réseau de pressions punitives qui s'exerce sur les individus. On y reviendra tout à l'heure. Le journaliste demande, il faudrait donc changer tout le système. Foucault répond, on a le système pénal que l'on mérite. Il y a une analyse dite marxiste, un peu facile, qui consiste à mettre tout cela sur le compte des superstructures. Donc, système de pouvoir qui n'est pas le système de la production. À ce niveau, on peut toujours imaginer des aménagements et des modifications. Mais en fait, je ne crois pas que le système pénal fasse partie des superstructures. En réalité, c'est un système de pouvoir qui pénètre profondément dans la vie des individus et qui porte sur leur rapport à l'appareil de production. On le verra aussi tout à l'heure. Dans cette mesure, il ne s'agit pas du tout d'une superstructure. Pour que les individus soient une force de travail disponible pour l'appareil de production, il faut un système de contraintes, de coercition et de punition, un système pénal et un système pénitentiaire, ce n'en sont que des expressions. Alors, arrive ici la référence à Bentham. Peut-on le prouver historiquement? Foucault répond, il y a eu depuis le début du XIXe siècle toute une série d'institutions qui ont fonctionné sur le même modèle, qui obéissaient aux mêmes règles et dont la première description, presque délirante, dit-il, se trouve dans le célèbre panopticon de Bentham. Institutions de surveillance où les individus étaient fixés, soit un appareil de production, une machine, un métier, un atelier, une usine, soit un appareil scolaire, soit un appareil punitif, correctif ou sanitaire. Ils étaient fixés à cet appareil, contraints d'obéir à un certain nombre de règles d'existence qui encadraient toute leur vie. Et cela, sous la surveillance d'un certain nombre de gens, de cadres, contremaîtres, infirmiers, gardiens de prison, qui disposaient de moyens de punir, consistant en amendes dans les usines, en corrections physiques ou morales dans les écoles et les asiles, ou dans les prisons, en un certain nombre de peines violentes et essentiellement physiques. Hôpitaux, asiles, orphelinats, collèges, maisons d'éducation, usines, ateliers, avec leur discipline, et finalement prison, tout cela fait partie d'une espèce de grande forme sociale du pouvoir qui a été mise en place au début du XIXe siècle et qui a sans doute été l'une des conditions du fonctionnement de la société industrielle, si vous voulez, capitaliste. Pour que l'homme transforme son corps, son existence et son temps en force de travail et la mette à la disposition de l'appareil de production que le capitalisme cherchait à faire fonctionner, il a fallu tout un appareil de contraintes et il me semble que toutes ces contraintes qui prennent l'homme depuis la crèche et l'école, le conduisent à l'asile de vieillard en passant par la caserne, tout en le menaçant. Voilà. Le reste n'apporte pas de propositions nouvelles. Donc, voilà, ce n'est plus seulement du système pénal qu'il s'agit, de la prison en tant que telle, mais finalement d'une série d'institutions qui structurent l'exercice du pouvoir depuis le XIXe siècle. D'où le caractère exemplaire, emblématique du projet de Bentham. Très rapidement, sur ce projet, à la recherche d'une efficacité et d'une économie de moyens maximale dans la politique pénale et tout particulièrement dans l'organisation des prisons, Bentham a conçu et mis au point une architecture. C'est un projet d'architecture qu'il met au point avec son frère, une architecture qui permettrait à peu de personnes, voire une seule personne, de surveiller de nombreuses cellules et de nombreux prisonniers. Voilà. Ce projet d'architecture que Foucault désigne comme presque délirante, vous avez vu, consiste à répartir les cellules en épis ou en pétales, si vous voulez, autour d'une sorte de tour centrale à partir de laquelle le surveillant pourrait voir tous les détenus sans être lui-même visible. Ce qui fait que les détenus ne savent pas s'ils sont surveillés ou non. En 1791, donc on est à la toute fin du 18e, Bentham expose ce projet dans un texte qui s'appelle Panoptique, virgule, mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d'inspection et nommément des maisons de force. Le terme panoptique, créé par Bentham pour désigner son projet, est devenu, comme vous savez, le nom célèbre donné au type d'institution et d'organisation sociale dont il serait un exemple emblématique, en fait. Voilà. Ce qui explique peut-être encore davantage l'intérêt de Foucault pour le projet de Bentham, pour le panoptique, c'est que Bentham préconisait que le local central de surveillance puisse être utilisé comme chapelle afin de pouvoir édifier les détenus, mais aussi il préconisait que ce système de surveillance radicale et d'édification puisse être redoublé, en quelque sorte mis en abîme, par la possibilité d'organiser la surveillance des surveillants. Voilà. Par des contrôleurs ayant, alors là, ce serait une société privée, là, quelque chose comme ça, par des contrôleurs ayant pour fonction officielle de prévenir les maltraitances et les abus de pouvoir. Alors, Bentham, c'est très intéressant, enfin, on n'a pas le temps, et puis j'ai pas, moi-même pas eu le temps de travailler autant que j'aurais voulu sur ce point, mais avait obtenu l'accord du Parlement britannique pour la construction d'une prison sur le modèle du panoptique. Mais le roi ayant refusé la mise à disposition d'un terrain, le projet a finalement échoué. Mais dès la première décennie du XIXe siècle, donc deux décennies après, plusieurs prisons ont été construites en s'inspirant du modèle de Bentham aux USA, en Irlande, la prison de la Roquette à Paris, et plus tard, un bâtiment de la prison de Caen jusqu'à celle de Val-de-Reuil, paraît-il. Voilà. L'importance, l'influence de ce projet et de ce modèle ont conduit Foucault à créer le terme de panoptisme, pour désigner le choix, alors strictement contemporain, du grand enfermement, donc qu'on essaye de décrire et de comprendre depuis le début, comme finalement comme forme dominante de punition des coupables de crimes et délits, et finalement comme mode d'existence et mode d'exercice du pouvoir central. Dans un livre qu'il a consacré à Foucault, qui s'appelle Foucault, aux éditions de Minuit, en 86, donc deux ans après la mort de Foucault, Deleuze a parfaitement résumé cette lecture du projet de Bentham. Il dit ceci: quand Foucault définit le panoptisme, tantôt il le détermine concrètement comme un agencement optique ou lumineux qui caractérise la prison, tantôt il le détermine abstraitement, cette fois, comme une machine qui non seulement s'applique à une matière visible en général, atelier, caserne, école, hôpital autant que prison, mais aussi traverse en général toutes les fonctions énonçables. La formule abstraite du panoptisme n'est plus voir sans être vu, mais imposer une conduite quelconque à une multiplicité humaine quelconque. Ça, c'était donc sur le fait que ce que Foucault découvre ou essaye de mettre en évidence à propos de la prison, de l'enfermement, etc., se diffuse dans un système d'institutions et au bout du compte devient une théorie du pouvoir. Le second point que je voulais ajouter, c'est que Foucault articule son travail et ses propositions sur la fonction de la prison dans le système pénal contemporain avec... alors là, c'est vraiment important, je crois, avec les recherches et analyses qu'il avait développées auparavant, dans les années 60, concernant les sciences humaines. Ça, c'est aussi un point très important de ces années 70-75. Dans le passage du système judiciaire et pénal classique au système contemporain, dans le passage du traitement du crime ou du délit à celui du danger, dans le passage de ce que tu as fait à qui tu es, Foucault accorde, on a vu, une importance toute particulière à l'enquête de personnalité. Parce que c'est finalement elle qui va devenir, qui va intéresser le pouvoir, concernant non seulement d'ailleurs l'accusé, mais ses parents et son entourage. Or, pour mener cette enquête, le système judiciaire, et après, en un sens pénal, fait appel à des experts. les psychologues, les médecins psychiatres, les assistants et travailleurs sociaux. Des psychologues, des médecins psychiatres et des assistants et travailleurs sociaux. Ce sont eux qui apporteront au tribunal, aux magistrats, aux jurés, les résultats, les conclusions et les analyses qui leur permettront, qui permettront au tribunal d'évaluer la dangerosité de l'accusé. De nombreux textes dédiés et écrits de cette période sont donc consacrés à des réflexions critiques sur cette intervention des sciences humaines dans l'évolution du système judiciaire et pénal et dans l'instauration des sociétés de surveillance et punitives. Ces interrogations critiques ne concernent pas seulement le rôle de ces disciplines dans la procédure judiciaire, comme on vient de le dire, et dans son application, mais aussi, et peut-être davantage encore, dans la détermination et la diffusion des normes qui seraient constitutives de la société, au point que celles et ceux qui ne s'y soumettraient pas devraient être considérés comme déviants, délinquants, dangereux. Donc, finalement, elles contribuent à la détermination des normes elles-mêmes. Alors, ces analyses et propositions s'appuient sur les importantes recherches que Foucault a menées concernant, cette fois, c'est un homme qui travaille beaucoup, concernant ce qu'il appelle l'histoire et ce qu'il appelle la généalogie de l'enquête judiciaire. Parce que c'est là que la question de l'expertise et de la science et de la vérité vont arriver. La généalogie de l'enquête judiciaire. Il montre très précisément que dans la période médiévale, dès la période médiévale, l'enquête judiciaire, l'inquisition, visant l'obtention de l'aveu, souvent, a pris pour modèle, ça c'est vraiment très intéressant, pour matrice méthodologique d'une certaine façon, les procédures de vérification, voilà, on arrive à des problèmes de science d'une certaine manière, des procédures de vérification appliquées par les ordres religieux de l'époque, qui sont structurants, et par leur hiérarchie, pour contrôler le respect de la règle monarchique, la règle monastique, monarchique aussi d'ailleurs, pour contrôler le respect de la règle dans les monastères et dans les abbayes. Vous savez, ils envoyaient des enquêteurs finalement, des contrôleurs. Ces recherches confirment les interrogations de Foucault sur les relations que l'on pourrait dire d'intérêt réciproque que les procédures de recherche et d'établissement de la vérité, et donc les sciences, ont entretenues avec l'instauration du système judiciaire et pénal jusqu'à sa forme contemporaine. Ces interrogations sont d'autant plus importantes qu'elles ne portent pas seulement sur le rôle de la science dans le système judiciaire et pénal, elle concerne aussi le rapport de la recherche de la vérité à l'ensemble des institutions dont on vient de parler, qui contribuent à la structuration des sociétés contemporaines. Plus généralement, Foucault voit dans la généalogie de l'enquête, dans cette histoire de l'enquête et cette généalogie de l'enquête, une raison d'interroger le statut social et politique du discours scientifique lui-même. Voilà, non seulement dans les sciences humaines, mais aussi dans les sciences exactes et les sciences de la nature, dans leur double prétention à l'objectivité et à l'universalité. Dans l'annonce du cours qu'il prévoit de dispenser au Collège de France dans l'année 71-72, donc on est toujours dans la même période, Foucault écrit « La vérité d'expérience », donc la science expérimentale d'une certaine manière, « La vérité d'expérience est fille de l'inquisition, du pouvoir politique, administratif, judiciaire, d'extorquer des réponses, de recueillir des témoignages, de contrôler des affirmations, d'établir des faits. » Voilà, donc une interrogation très sévère sur la question de la science. Foucault est grand lecteur de Nietzsche, je vous disais, il a publié les œuvres complètes de Nietzsche, donc aussi la question de la vérité, enfin, son, son interrogation sur l'action de la vérité lui vient aussi de la lecture de Nietzsche. C'est dans ce texte-là, cette annonce du cours de 71-72 au Collège de France, c'est dans ce texte qu'il construit l'expression « pouvoir-savoir », qui est célèbre, pour introduire l'idée que la relation entre ces deux notions et ces deux expériences n'est pas seulement une relation d'instrumentalisation réciproque, le pouvoir utilisant le savoir et réciproquement, mais c'est même plus profond, c'est une relation de conditions de possibilité et d'identification réciproque du pouvoir et du savoir. On pourrait, je me suis interrogé sur l'emploi du terme d'instruction pour désigner, étrangement d'ailleurs, une séquence majeure de la procédure judiciaire, l'instruction. Voilà, sur ces questions concernant en particulier les sciences humaines, ah oui, juste un petit mot comme ça, mais que vous connaissez peut-être, sur le rôle mystérieux, finalement problématique, mais elles le savent, hein, que jouent les sciences humaines dans le système pénal, judiciaire pénal, mais aussi à propos de l'exercice du pouvoir. Mais les sciences humaines sont très au fait de ça, enfin, savent qu'elles sont traversées par cette question. Georges Canguilhem, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment... il est mort en 1995, la même année que Deleuze d'ailleurs. Canguilhem est un philosophe majeur des sciences. Vous savez qu'il était médecin, Canguilhem. Il était philosophe, puis a fait ses études de médecine pour savoir exactement de quoi il allait parler, pour parler de la biologie. Donc voilà ce qu'on faisait à ce moment-là. Philosophe majeur des sciences, grand résistant, Georges Canguilhem, grand résistant, inspecteur général de l'éducation nationale et ancien maître de Michel Foucault. Et il conclut une conférence qu'il a faite sur la psychologie, il a prononcé en décembre 58 devant le Collège de philosophie, par des formules à propos des sciences humaines, des formules qui sont restées célèbres, qui sont un peu sous forme de plaisanterie. Il dit ceci à propos de la psychologie: c'est donc très vulgairement que la philosophie pose à la psychologie la question « Dites-moi à quoi vous tendez pour que je sache ce que vous êtes ». Mais le philosophe peut aussi s'adresser au psychologue sous la forme, une fois n'est pas coutume, d'un conseil d'orientation et dire « Quand on sort de la Sorbonne, par la rue Saint-Jacques, on peut monter ou descendre. Si on va en montant, on se rapproche du Panthéon, qui est le conservatoire de quelques grands hommes. Mais si on va en descendant, on se dirige sûrement vers la préfecture de police. » Voilà ce que dit Canguilhem, qui était un homme très, très ironique. Enfin, voilà. Donc, quels enseignements, quelles propositions retirer pour ce qui... Voilà, j'en termine, je suis désolé, je suis long.
Pour moins long que moi.
Quels enseignements, quelles propositions retirer pour ce qui nous concerne aussi, parce que finalement, tous ces textes nous sont adressés, et on a déjà vu à quel point les objets que traite Foucault sont encore les nôtres, d'une certaine manière. Quels enseignements et propositions retirer pour ce qui nous concerne de ces recherches et travaux de Foucault sur la situation et le rôle majeur des prisons dans le système juridique et pénal contemporain et dans, finalement, l'organisation générale du pouvoir, l'exercice et l'organisation du pouvoir. La première leçon qui donne à réfléchir, c'est peut-être que le système pénal de nos sociétés évolue. Voilà, ça, après tout, on aurait pu penser que c'était inscrit, je sais où, dans le code dicté par Dieu, il y avait un Moïse, non, un truc comme ça. Mais voilà, en fait, le système pénal de nos sociétés évolue et se transforme en fonction de leurs formes successives d'organisation. Il y a donc une histoire du système pénal, du système des principes, des institutions et des mesures pratiques qui régissent la détermination et l'application des peines. c'est évolutif. Il y a une histoire de cela. Et plus précisément encore, la question de la punition, du châtiment, n'est sans doute pas d'abord une affaire de droit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc ni du décalogue, ni même du droit positif, comme on dit, pas une affaire de droit au sens des dispositions législatives et réglementaires que ce terme désigne. Elle est, au bout du compte, c'est ce à quoi on est arrivé, une affaire de pouvoir. Au bout du compte, une affaire de pouvoir, et en ce sens, une affaire profondément politique. Premier point, quand même. Le deuxième point, depuis le XIXe siècle, le système pénal des sociétés occidentales, au moins, et particulièrement en France, est essentiellement fondé, on a vu longuement, sur la pratique de l'enfermement, de l'emprisonnement. Mais cet emprisonnement n'a paradoxalement pas pour enjeu essentiel majeur de punir les délits, ni même peut-être les crimes. Foucault rappelle d'ailleurs régulièrement que les grands délinquants, c'est ce que me disaient les gamins à la maison d'arrêt, ils me disaient, vous savez, les méchants ici, il n'y en a presque pas. Il y en a un qui me dit, vous savez, les plus vieux, c'est mes grands frères, les plus petits, c'est mes petits frères. Il me dit, c'est la famille ici. C'est un énoncé à la fois touchant et accablant, quoi. Enfin, pour s'en dire long sur la vie dans la cité. Donc, ça n'a pas pour enjeu l'emprisonnement, donc de punir les crimes. Foucault rappelle que les grands délinquants et criminels ne représentent qu'à peine 10% des détenus, en fait, qui pour une très large part, je vous disais, n'ont pas même encore été jugés. Les travaux de Foucault tendent à établir que l'emprisonnement ne vise donc pas tant à punir ni à corriger qu'à exclure, on l'a dit, et finalement contrôler les individus qui sont condamnés au motif de leur dangerosité, soi-disant dangerosité. Troisième remarque, la fonction de contrôle et de surveillance n'est pas seulement assurée par l'institution pénitentiaire, c'est encore un point donc qu'on a vu, mais par les grandes institutions qui régissent la vie des individus depuis l'école, comme il le disait, jusqu'à l'armée, en passant par les institutions de santé. Ces institutions constituent un système qui organise et gouverne nos sociétés en vue de la soumission à un système de normes visant à régir les conduites et les pensées. L'exercice du pouvoir se transforme, dit parfois Foucault, au point que ces normes tendent à se substituer aux lois, d'une certaine façon. Et ces normes ne sont pas seulement formulées, diffusées, imposées par les institutions elles-mêmes, mais aussi, je vous disais, au moyen d'un régime de discours qui s'autorise du modèle de la science, tel qu'il est aujourd'hui particulièrement revendiqué par les sciences humaines et tel qu'il a été systématiquement réfléchi et exposé par la philosophie elle-même depuis l'Antiquité et magistralement et radicalement dans la période classique. On sait cependant l'importance et l'actualité des problèmes méthodologiques et éthiques que soulève le modèle de la science. On le sait, pas seulement d'ailleurs en ce qui concerne son rapport au système pénal et ni même au pouvoir, mais en tant que problème méthodologique et éthique que soulève le modèle de la science dans la période toute contemporaine. Si les exigences de la science, c'est-à-dire de la rationalité, sont évidemment indiscutables, mais c'est bien ça le problème, leur légitimité reste profondément liée à leur capacité aux sciences à tenir compte, voire à rendre compte des questions qui lui sont désormais posées, qui leur sont posées aux sciences. J'ai pensé à quelques questions que posent les sciences indépendamment de leur rôle juridique et politique. À titre d'exemple, Je m'interroge vraiment quant au discours aujourd'hui largement répandu qui est présenté comme celui des dites neurosciences. Vous avez certainement entendu parler de ces neurosciences parce que ça devient très très largement diffusé. Elles empruntent massivement leur langue à la biologie, on est d'accord, sans pour autant en appliquer les méthodes et en respecter les exigences, souvent. Dans la mesure où les conduites humaines qu'elles sont censées expliquer les conduites humaines, oui, qu'elles prétendent expliquer au moyen des outils de la biologie, en réalité ne peuvent concrètement, matériellement pas faire l'objet de véritables procédures expérimentales. Analogue au montage auquel les sciences de la nature procèdent. Elles procèdent à des montages qui permettent d'établir des relations de causalité, etc. Ça n'a aucune réalité dans le dispositif général des dites neurosciences. Et c'est très étonnant ce point, très, très inquiétant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un objet d'inquiétude. J'ajoute deux petits exemples comme ça d'interrogations sur les sciences. Foucault aurait sans doute été très intéressé par l'instauration, par notre président ministre de l'Éducation nationale, d'un conseil scientifique de l'Éducation nationale, chargé de déterminer scientifiquement des méthodes, voire de rédiger des manuels destinés à l'enseignement. Conseil scientifique, souvent, enfin, dont la majeure partie sont des neuroscientifiques. Et enfin, il aurait été certainement aussi intéressé par le fait que les écoles qu'il a lui-même connues, sous le nom d'Institut d'études politiques, IEP, sont aujourd'hui systématiquement désignées comme des instituts des sciences politiques. Voilà. Alors, ça c'était sur la question des sciences. Et enfin, dernière remarque pour nous, je vous disais, la généralisation d'emprisonnement trouverait finalement son sens et son enjeu dans l'émergence d'une nouvelle modalité d'exercice du pouvoir, que Foucault désigne comme une pratique systématique de normalisation des existences. Il parle ainsi, ce sont des jolies formules, mais qui, je crois, disent bien ce qu'il vise et qui mérite d'être réfléchi. Il parle d'une nouvelle anatomie politique. Il parle aussi d'une microphysique du pouvoir et enfin d'une micro-pénalité, dont la prison serait évidemment l'un des lieux majeurs. C'est pour ça que j'avais proposé l'intitulé de cet exposé, les termes de suspicion, prédiction, punition, prévention, tentaient de décrire des modalités actuelles de l'exercice du pouvoir, en fait. Et alors, le terme de punition, ici, dans cette liste, mais ce n'était pas clair en fait, n'est à mon avis pas dissociable des autres termes. Des autres termes qui révèlent que la punition n'est finalement qu'une sorte de prétexte pour les autres termes. La suspicion désigne une forme systématique de méfiance, voire de condamnation a priori, la suspicion. La prédiction, vous savez que c'est une méthode maintenant de gestion de l'ordre public. La prédiction désigne l'usage des statistiques, on les retrouve, pour déterminer des zones d'habitation et des catégories de population considérées comme a priori dangereuses. Et donc c'est là qu'il faut, et puis on finit toujours par trouver des gamins qui n'ont pas ce qu'il faut ou qui ont des choses qu'ils ne devraient pas avoir sur eux. Et puis la prévention organise en effet une sorte de contrôle, voire de punition par anticipation. Dans la préface du livre du groupe Information Prison, Enquête dans 20 prisons, Foucault écrit que les résultats de cette enquête portent bien sur le pouvoir, il dit, là où il s'exerce sous un autre nom, celui de la justice, de la technique, du savoir, de l'objectivité. Cette proposition d'explication du rôle contemporain de la prison par l'instauration progressive d'une nouvelle forme d'exercice du pouvoir va même jusqu'à poser l'hypothèse que la prison secrète une forme de délinquance qui pourrait être socialement, économiquement et politiquement utile pour le pouvoir lui-même. Et ce n'est pas du complotisme de la part de Foucault. Il rappelle, par exemple, et l'historien qu'il est, rappelle qu'au moment de l'émergence de ce système pénal, Napoléon III n'a pas hésité à recruter des prisonniers de droit commun pour faire son coup d'État. Et j'ai pas pu m'empêcher de noter que je pensais là au recrutement de détenus par la milice Wagner pour aller combattre en Ukraine. Alors, je conclus cette fois-ci, c'est promis, au cours de ces analyses, Foucault a régulièrement précisé que cette nouvelle forme d'exercice du pouvoir et la société normative et normée qu'il instaure sont, il dit ça régulièrement, sont essentiellement motivés, on l'a vu tout à l'heure dans le texte que je vous lisais, par des exigences d'ordre économique. Vous vous souvenez, l'enfermement et la normalisation sont en effet, ça c'est historiquement indiscutable, contemporains de l'émergence et du développement au XIXe siècle de la grande industrie et de l'économie capitaliste. C'est ce qui fait dire à Foucault que la prison et la norme ont pour objectif profond de préparer à la discipline de la production industrielle. Bien. Cette proposition est, je vous disais, historiquement indiscutable. Elle est aussi d'ailleurs soutenue et nourrie par l'intellectualité générale qui était celle des années 70, largement adossée, Foucault y fait allusion, largement adossée aux analyses marxistes et aux thèses du matérialisme historique. Il ne faut cependant pas sous-estimer le fait que le travail de Foucault vise et consiste à développer, exposer une pensée des faits de pouvoir en tant que tels, et pas seulement dans leur usage économique. Une pensée des faits de pouvoir en tant que tel, indépendamment des motifs, voire des déterminismes économiques. Ce choix est pour une part lié à celui de prendre très au sérieux ce qui se débattait à l'époque, le fait historique majeur qu'à l'échelle des transformations politiques des systèmes de pouvoir à l'époque et de leur rapport à l'économie, l'abolition de la propriété privée n'a pas, loin de là, comme on le sait, entraîné la disparition des formes les plus violentes de l'exercice du pouvoir. Donc, il s'agit de la Russie post-léniniste. Michel Foucault rappelle aussi, à juste titre, que l'évolution manifeste des formes d'exercice du pouvoir n'autorise pas à poser que ce pouvoir en tant que tel puisse changer de nature. Il y aurait donc bien ce qu'on pourrait désigner comme des formes d'invariants du pouvoir, d'invariance ou d'invariants du pouvoir, et dans tous les cas, une question spécifique et autonome des formes d'exercice du pouvoir qui n'est pas réductible au système de production des biens et d'échanges et de circulation. La preuve en serait que la société punitive ou normative contemporaine que Foucault décrit n'a manifestement pas rompu avec ces invariances du pouvoir. Ainsi qu'il le précise lui-même souvent, la logique profonde des évolutions qu'il a décrites relève davantage de la cumulation que de la rupture. Le système pénal de la surveillance et du contrôle n'élimine pas, loin de là, l'arbitraire, l'humiliation, la contrainte. Au contraire, il s'y adosse, d'une certaine manière. C'est peut-être ce qui explique que Foucault soit à la fois si sévère quant à la situation du système pénal et si modeste et réservé quant à ses améliorations et réformes possibles. On le sent dans ce qu'il dit sur les transformations. Modeste et réservé, y compris et tout particulièrement dans la période actuelle, qu'il désigne comme celle de la micro-pénalité. Et dans les sociétés où l'économie capitaliste, dans une société donc de juridiquement de la micro-pénalité et économiquement où l'économie capitaliste repose tout autant sur la spéculation et la consommation que sur l'exploitation du travail de production. Voilà. Alors, sur les points qu'il avance et qu'il nous lègue d'une certaine manière, il dit un moment, je ne sais pas, il dit un moment sur la, sur le journaliste, toujours le journaliste allemand, lui dit, mais alors, qu'est-ce que vous préconisez d'une certaine manière? Il lui dit, il faudrait donc changer tout le système. Alors, je vous avais dit, on a le système pénal qu'on mérite, dit Foucault. Et puis, à la fin, il lui pose une dernière question. Il dit, mais une dernière question pour conclure. Peut-on imaginer une société sans prison? Posée en 73, la question, évidemment, on pourrait imaginer, vous savez, oui, pas de problème, on crée des communautés, etc. Foucault est beaucoup plus prudent. Il lui dit, vous voulez me faire décrire une société utopique où il n'y aurait pas de prison? Le problème est de savoir si l'on peut imaginer une société. Là, il lègue le problème, vraiment. Le problème est de savoir si on peut imaginer une société dans laquelle l'application des règles serait contrôlée par les groupes eux-mêmes, dit-il. Les groupes sociaux, finalement. C'est toute la question du pouvoir politique. Je trouve ça très honnête parce qu'il dit pas, c'est pas compliqué, on va faire la révolution, etc. Il dit, c'est toute la question du pouvoir politique, le problème de la hiérarchie, de l'autorité, de l'État et des appareils d'État. C'est seulement quand on aura débroussaillé cette immense question, dit-il, que finalement on pourra dire, oui, on doit pouvoir punir de cette manière, où il est tout à fait inutile de punir. Ou encore, à cette conduite irrégulière, la société doit donner telle ou telle réponse. C'est-à-dire que il suspend l'avenir d'un système pénal ou un système pénal d'avenir, évidemment et très honnêtement, et de façon courageuse d'une certaine manière, à la question beaucoup plus redoutable de l'avenir du système politique ou d'un système politique d'avenir. Voilà. Sur ces points, juste deux pistes que je pense que Foucault, finalement, ce qui je trouve assez touchant, c'est que Foucault a toujours eu la modestie de soumettre ses propositions dans la forme très modeste de l'enseignement. Il a fait court, en fait. Voilà. Et ça lui allait, voilà, il n'a pas voulu être un tribun, etc. C'est un homme qui a beaucoup travaillé, énormément travaillé, et qui a fait court, qui a dit, qui a transmis ce qu'il avait trouvé ou les questions qu'il s'était posées. Et deux pistes, quand même, qu'il a, en un sens, pas la, qu'il a la modestie de ne pas revendiquer ou de ne pas rappeler. Premièrement, il a osé formuler le lien essentiel entre les formes de pouvoir et les formes et contenus de l'intellectualité et des productions de pensée. S'il y a bien un point qu'il a voulu léguer, c'est celui-là. Il y a une relation qu'il faut encore travailler entre les formes de pouvoir, les faits de pouvoir, et les formes et contenus de l'intellectualité et des productions de pensée. Comme on l'a vu, il est de ceux qui ont explicitement posé le rapport entre les questions d'exercice et de légitimité du pouvoir et celles de la production et de la légitimité du savoir. Autrement dit, toute transformation quant à l'exercice du pouvoir suppose un renouvellement des pratiques et des propositions concernant le discours, les conditions de production de discours et les types de discours produits, concernant le discours et sa légitimité, sa rationalité et finalement sa vérité. Je pensais à, très sérieusement, c'est pas du tout une flatterie, je pensais à vous en parlant, parce que non, mais il y a des lieux où les choses comme ça se travaillent, parce que voilà, il fait froid, on sort tard, il fait nuit, etc. Mais on vient travailler, vous voyez. Et je trouve que l'aventure Philopop, de ce point de vue-là, est pour moi quelque chose de remarquable. Enfin, voilà, je me permets de le dire, c'est pas du tout une flatterie. Le choix de Foucault de lier philosophie et histoire, il est celui qui a fait ça. Les historiens lui en ont voulu terriblement, et les philosophes aussi, évidemment, bien sûr. Ils le trouvaient tous tout à fait transgressif, si vous voulez. Finalement, c'est un choix qui est tout à fait sérieusement réfléchi. Il dit à un moment, donc voilà, les problèmes de système pénal et de pouvoir reposent, ou en tout cas incluent de façon essentielle les questions de production de discours et les façons de produire du discours et de légitimer le discours. Comment on fait pour... Il ne suffit pas d'être celui qui passe le plus souvent à la télé pour que ce soit vrai, quoi, voilà, etc. Donc, il est celui qui a posé ça, et dans, il dit à un moment que c'est le monde présent qui est son véritable objet, et que être philosophe, c'est pour lui être un journaliste radical. Il dit ça comme ça. C'est à la page 1302 dans le premier tome des 10 écrits. Je pense que c'est sa manière de rappeler que la philosophie ne peut ni ignorer, la philosophie et l'histoire ne peuvent ni ignorer ni nier leur rapport à la politique, en fait. C'est ce point, donc au pouvoir. Et la deuxième et dernière chose que je voulais vous dire, c'était que les années 70-75 constituent une expérience essentielle au sens où Foucault rappelle souvent qu'il y a précisément expérimenté lui-même de nouvelles conditions et de nouvelles formes de pensée, comme ici, vous voyez, d'une certaine manière. Il a expérimenté le groupe d'information sur les prisons. Ce sont, comme il le dit dans le texte de 73, là, les groupes eux-mêmes. La formule est jolie, les groupes eux-mêmes, alors c'est les groupes d'information prison, mais c'est les groupes de gens finalement, les groupes eux-mêmes, c'est-à-dire finalement les gens, des gens, qui peuvent créer les espaces et les moments d'une pensée renouvelée sur le pouvoir. Mais tout est probablement à expérimenter là-dessus, comme il le dit modestement là. C'est compliqué, c'est un sacré chantier, parce qu'on est en train de clore une espèce d'arche générale. Donc, les groupes eux-mêmes, c'est-à-dire finalement les gens, des gens qui peuvent créer les espaces et les moments d'une pensée renouvelée sur le pouvoir, c'est-à-dire aussi sur ce qui doit être considéré comme un délit ou un crime, et sur les peines que ces types de transgressions pourraient entraîner finalement. Mais ça, c'est les groupes eux-mêmes, c'est-à-dire finalement, c'est les gens, ce sont les gens qui auront à dire. La question est bien celle d'une autre forme d'ordre social. Une autre forme d'ordre social que celle de la seule domination et de la seule violence. C'est quand même bien ça, au fond, le problème. Ce que Rousseau appelle, je suis désolé de citer Rousseau, mon ami... ce que Rousseau appelle un autre lien social que la force. Un autre lien social que la force. Et il est bien possible que le choix de remettre cette question au groupe eux-mêmes, comme il dit, soit en effet une piste, mais sérieuse, une piste politiquement grave, quoi, relativement à la question de l'ordre. Relativement à la question de l'ordre, parce que il faut aussi imaginer l'ordre, comme il dit. Ça va être quoi l'ordre? Ça va être comment, vous voyez? Parce que l'hypothèse, c'est pas non plus le chaos, la barbarie, je sais pas quoi. Il y a un problème d'ordre. Et donc, la question de l'ordre pourrait être réglée par les groupes, mais dans la mesure où les groupes pourraient proposer eux-mêmes un système de normes, finalement, qui serait le leur, en quelque sorte, et qui pourrait peut-être être applicable et appliqué au sens où, si c'est le groupe qui le détermine, alors l'ordre est consenti. Et je réfléchissais en finissant là-dessus, j'emprunte évidemment ce terme à la thématique du consentement tel qu'il est développé par les mouvements féministes aujourd'hui. Et Dieu sait si il est majeur, s'il est central. Et je me dis que peut-être que ces mouvements de femmes, ces paroles de femmes, finalement nous indiquent une voie. Qu'est-ce qu'un ordre consenti? Parce qu'elle, elle traite d'une relation consentie. Mais qu'est-ce qu'un ordre consenti? Au bout du compte, ce serait intéressant de reprendre, de leur demander si on peut leur emprunter ce terme. Mais pour ce qui concerne l'ordre social en tant que tel, et d'une certaine manière, la façon de traiter les transgressions à l'ordre social. Voilà.
Merci Yann. La parole est au groupe.
Oui.
Michel Foucault est mort en 1984.
Oui.
C'est aussi le titre du livre de George Orwell.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est tout à fait un hasard.
C'est vrai.
J'y pensais.
C'est vrai.
Du panoptique.
Oui.
Dans 1984,
mais
le
oui.
livre, c'est le télécran.
Mais oui, oui.
Qui peut voir chez chacun.
Et oui.
Vu d'en haut. Et
par, oui.
Potentiellement Big Brother.
Absolument.
On ne sait jamais trop s'il existe. C'est,
absolument.
Il y a aussi ça dans le film de Fritz Lang de 1926, Métropolis.
Métropolis.
Il y a déjà ça, le grand patron peut voir les hommes qui sont quasiment attachés à leur machine.
Ah, tout à fait. Et alors, honnêtement, je pense que c'est un hasard. Mais si c'est un hasard, c'est quand même un hasard significatif. Là, vraiment, c'est...
Est-ce qu'il avait lu Orwell, probablement?
Ah oui, Foucault, il avait lu Orwell, c'est clair. Oui, oui. Mais le fait que, bon, la date de sa mort, Michel Foucault, il...
Tu n'as pas choisi tout.
Non, non. Et, non, Deleuze, oui, mais Foucault... Non, c'est vrai, vous avez raison. Là, il y a une sorte de conjonction historique... étonnante. Et en vous écoutant sur le panoptique et les descriptions d'Orwell, je pense d'ailleurs, on pourrait le dire là, à propos des sciences et de que le numérique aujourd'hui joue un rôle massif dans la question des normes et de leur diffusion et de ben oui, voilà, c'est jusqu'à devenir eux-mêmes délinquants, enfin, etc. C'est Et donc, à devenir eux-mêmes des futurs contrôlés, eux qui sont contrôleurs, enfin, on a donc bien un système qui est presque délirant, comme dit Foucault à propos de Bentham, quoi. C'est vrai, 84...
Aujourd'hui, avec la technologie numérique...
Eh oui.
J'entends encore parler ce matin en formation,
Oui, oui, oui.
Je pense à d'autres,
oui.
D'autres fictions.
Hein, oui, oui. Minority Report. Ça, je connais pas, oui. Mais j'ai entendu parler récemment d'un système qui est vraiment bantamien, à propos de l'école. C'est-à-dire, il y avait un collègue, probablement animé de fort bonnes intentions, qui a inventé un système numérique qui lui permet de surveiller en direct l'écriture de ses élèves chez eux. Et il peut corriger, vous voyez, c'est-à-dire qu'il voit l'index sur l'écran de ses élèves et il peut intervenir. Enfin, et je me disais, mon Dieu.
En vous écoutant,
plus fort.
En vous écoutant, ça me faisait penser que Michel Foucault a habité aux États-Unis, en Californie.
Oui.
Et aux États-Unis, le pouvoir est très décentralisé, mais vraiment très décentralisé, jusque dans les associations de copropriétaires, par exemple.
Oui.
Où ils
ont
leur propre règlement. Et vers la fin de ce que vous disiez, je me demande s'il n'a pas pris un peu.
C'est très probable. Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. C'est très, très, très probable. Hein. C'est, il y a même probablement des moments où il en parle. Effectivement, vous savez, les quartiers qui ont leur propre gouvernement, etc. Ouais.
C'est pas un bon exemple les États-Unis en ce moment.
Non. Certes. Certes.
Et chez Orwell, on trouve poussé au paroxysme cette notion d'escamoté qui est celle dont vous parliez à propos de la prison, puisque les déviants sont supprimés des photographies, les articles de journaux sont réécrits, on supprime leur nom. Donc, de qui voulez-vous parler quand vous dites Bowman ou Shelby? Ils n'ont jamais existé. Mais cette façon d'escamoter, en fait, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Quand on met quelqu'un en prison, on prive de liberté, c'est-à-dire qu'on prive du droit à être citoyen. C'est assez radical.
Assez radical. C'est absolument. Et c'est vrai que quand on le lit, et quand on prolonge ce qu'il dit sur la situation actuelle, c'est très impressionnant, en fait. Moi, je. Très impressionnant, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous en avez fait l'expérience, mais l'entrée dans ces lieux où il y a un monde fou, mais sauf les concernés, c'est-à-dire les détenus, qu'on ne voit pas du tout. Mais sinon, dans les couloirs d'une maison d'arrêt, c'est comme un centre commercial. Enfin, il y a un monde fou de gens qui circulent, etc. Le personnel pénitentiaire est extrêmement nombreux, finalement. Alors, ils ont sans doute des tas de fonctions, des tas de trucs. Hein. Il y a des grades, etc. Mais moi, ça m'avait beaucoup frappé au tout début. Je me disais, mais tant de monde pour enfermer d'autres personnes. J'avais pas imaginé qu'il y aurait tant de monde sur le pont, quoi, vous voyez, dans les couloirs. Mais les détenus, eux, sont en effet absolument invisibles. On voit passer parfois les gens quand ils vont, je sais pas où, à des parloirs ou à des. Oui.
Oui.
J'ai deux questions.
Oui.
C'est différent. C'est différent. C'est un peu à la suite de votre exposé. C'est d'une part, si c'est quand même dans l'historique, dans les évolutions du châtiment.
Oui.
Alors, première question, c'est sur la peine de mort.
Oui.
Est-ce que la disparition de la peine de mort n'a pas été rendue possible par le fait qu'elle correspondait finalement plus à une notion de surveillance qui était instituée, que ça a facilité finalement sa disparition, parce qu'elle ne correspondait plus à un besoin ou pas, parce que ce suicide. Et puis, Foucault semble dire, parler de l'évolution d'échappement vers de l'aliénation en le mettant au bénéfice d'un système économique qui se met en place, mais est-ce qu'il n'est pas aussi repris en relais l'aspect surveillance? Est-ce que ce n'est pas la réponse de la République organisée à la demande du groupe? Vous aviez parlé du groupe. Que représente qui? Est-ce que le peuple, entre guillemets, enfin, voilà, représenté par la République, sa demande n'est pas celle, effectivement, d'une surveillance et d'un contrôle de la dangerosité, finalement? Est-ce que, la réponse n'est pas... si j'ai bien compris, il y a celle de l'aliénation au service de pouvoir économique, mais est-ce qu'il n'y a pas celle aussi d'une réponse du corps constitué républicain par rapport à une demande du groupe qui est certainement trop massive, pas suffisamment subtile, mais deux questions sur dans le droit fil du traitement du châtiment.
Oui. Sur la deuxième question... c'est important ce que vous dites, parce qu'en réalité ça confirmerait le fait que la question du pouvoir est ouverte, y compris pour nous tous, enfin, vous voyez, c'est-à-dire que y compris dans ce que vous appelez la demande de surveillance, c'est-à-dire que après tout ce que j'essayais de dire à la fin, c'est-à-dire que il faut de l'ordre, ou du moins il faut un ordre où, je ne sais pas, les féministes diraient, il faut une possible relation qui ne soit pas la guerre, ou comme dirait Rousseau, qui ne soit pas la force, quoi. Donc il faut bien une forme d'ordre. La question qui n'est pas réglée et que la société règle à sa manière, sous la forme d'une demande de surveillance ou d'une demande de répression, c'est mais quel ordre et quelle sera la légitimité de cet ordre? Et là, on est à mon avis dans un blanc, quoi, de l'histoire. Enfin, vous voyez, une période blanche, parce que les formes d'ordre qu'on a connues, soit d'ordre juridique, redistributif, pacifiste, plus ou moins... Encore qu'il valait mieux habiter la métropole que les colonies. Vous voyez, soit ce type d'ordre, soit l'ordre prolétarien, ou je ne sais pas comment il faut dire, socialiste. Dans les deux cas, ça n'est pas vivable d'une certaine manière. Et on est dans un blanc. Et ce que vous dites, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que... La société, pour l'instant, se limite, d'une certaine manière, à demander à ce que quelqu'un fasse régner l'ordre. Vous voyez, quelque chose comme ça.
Et on se rend bien que le réflexe de la surveillance...
C'est ça. Présente. Oui.
C'est le thème de la sécurité
qui devient
le thème numéro un.
C'est la sécurité, absolument. Et donc,
risque zéro.
L'uniforme rassure, si vous voulez, quelque chose comme ça, même si c'est l'uniforme d'un pauvre vigile à qui on a collé un badge ou je ne sais pas quoi, vous voyez, mais il est censé à la fois surveiller, rassurer, rassurant parce qu'il surveille. Et je pense que c'est l'horreur du vide. Enfin, il y a un vide sur la question de notre capacité à mettre en œuvre, au sens quasi même artistique du terme, quelque chose comme un ordre social, un ordre entre nous, quoi. Ça, c'est pour ça que je trouve joli quand Foucault dit, mais là, vous savez, c'est les groupes, parce que ne me demandez pas, moi, quel type d'État il faut concevoir, quoi. Sur la peine de mort, je pense que ce que vous dites est vrai, ça ne correspondait pas, c'est pratiquement ce que dit Beccaria, c'est-à-dire que c'est peut-être comme ça, c'est évidemment horrible, c'est l'horreur, c'est spectaculaire, c'est émotionnellement sur le moment, mais Beccaria dit d'ailleurs, je crois, en fait les gens qui assistaient au supplice, ils finissaient par éprouver de la sympathie pour le pauvre type qui était si maltraité, quoi. Et je pense, alors que, en effet, quelque chose, ça relevait d'une période qui était dépassée, sans compter le fait que, comme vous savez, les institutions européennes avaient imposé l'abolition de la peine de mort. Donc, du coup, ça devenait inévitable, quoi. Enfin, ça devenait incontournable. Bon, moi, je suis pour ma part abolitionniste, hein, mais voilà.
Il y a aussi une chose, c'est que c'est Albert Camus, dans ses réflexions sur la guillotine, qui montre qu'il y a une contradiction qui s'est développée au sein des sociétés occidentales. C'est que d'un côté, on dit la peine de mort est exemplaire, il faut continuer à l'exercer parce que c'est dissuasif et tout. Mmh. Et en même temps, ceux-là même qui disent ça la cachent.
Oui, en plus, oui.
Ils la mettent, parce qu'avant, elle était sur la place publique. C'est exemplaire, il fallait montrer. Hein. Et puis, finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Progressivement, on l'a mise discrètement, on l'a placée discrètement en prison. Et la dernière fois, la dernière exécution qui a été publique, je crois que c'est en 1938, en France, c'est l'affaire Weidmann, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a un journal qui avait photographié... la scène,
l'échafaud, hein.
et ça avait suscité une émotion collective considérable. Enfin, en tout cas, ça avait produit un effet épouvantable. Mm. Et le pouvoir politique avait décidé à ce moment-là d'arrêter de les exécutions publiques, quoi. Voilà, définitivement. Donc c'est en cachette, le petit matin. Mm. Hein. Donc c'est un peu contradictoire avec l'idée d'une peine exemplaire qui est censée être dissuasive.
Ce qui est très fort sur le caractère punitif, c'est ce que vous avez démontré, pour ça que ça me fait penser quand même à toute une organisation républicaine, c'est-à-dire qu'il y a d'autres institutions qui sont concernées. Mmh. Quand ils citent l'école, l'armée,
tout à fait.
La justice, oui. C'est quand même...
Oui, oui.
Une organisation, ça, je trouve ça une illustration quand même.
Ça, c'est vrai. Enfin, moi, je trouve ça aussi très convaincant. Enfin.
Ce qui veut dire que les questions qu'il faut se poser par rapport à la prison, il faut se les poser.
Exactement.
Oui, mais moi, j'ai du mal à te comprendre tout de même en quoi. Enfin, là, c'est une question très rade et pâquerette, hein, que je pose. En quoi l'institution scolaire elle-même. De quelle institution scolaire il parle quand il dit qu'elle est, au fond, sous le modèle de la prison ? Mmh. Est-ce qu'il s'agit de celle du 19e siècle ? Est-ce que, enfin, j'ai toujours eu du mal, j'ai toujours été mal à l'aise avec ce que dit Foucault sur l'école.
C'est sur l'école en général. Sur la sélection des attentes, non, quand même.
Oui, et peut-être que c'est sur la normalisation, enfin, oui, des existences, quoi. C'est pas seulement sur la punition, mais... sur l'énergie consacrée plus à la normalisation qu'à la transmission du savoir, d'une certaine manière, quoi. Enfin, quelque chose comme ça.
Oui, alors il y a deux personnes. Bon, première à lever la main, et puis ça, toi.
Dans les institutions scolaires, vous avez quand même l'exclusion.
Oui.
L'élève qui est dangereux, qui risque... Donc ça existe. Et puis je pense que peut-être Foucault a dans la tête que c'est à cet endroit-là qu'il faut justement commencer à...
C'est possible.
Les institutions...
C'est possible, oui. Et puis, Foucault parle des institutions scolaires qu'il a connues, c'est-à-dire finalement celles des années 50, enfin, même avant. Et il a en plus été particulièrement malheureux dans son parcours scolaire. Peut-être qu'il en veut particulièrement.
Oui, parce que ça ressemble à ce qu'a pu être l'école,
oui.
Dans les pensionnats.
Oui,
ou les...
Oui, ah.
Oui. Moi la réflexion que je me faisais, c'est que finalement, en tant qu'individu citoyen, on se demande si on n'est pas demandeur d'une surveillance. On se fait de l'autosurveillance,
oui.
On se
met sur les... Oui, c'est la question.
On veut être vu par tout le monde, donc on est surveillé, quoi. Donc on est presque demandeur de cette surveillance.
Ah oui, c'est la question qui était posée tout à l'heure. C'est est-ce que Ben, est-ce qu'on ne relaie pas cette demande de surveillance, effectivement ? C'est en partie d'ailleurs ce que Foucault annonce d'une certaine façon, c'est qu'on va finir par demander la surveillance ou pas, à force de l'intérioriser.
Oui,
à force de l'intérioriser. Ce qui veut pas dire qu'il faut prendre des risques, je sais pas comment dire. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est. Je repense au dernier texte, c'est-à-dire. Et pourquoi pas demander. La création ou la réflexion et la création de l'énergie créatrice, enfin je sais pas, pourquoi pas demander la liberté de penser, de dire, de parler, avant la sécurité d'une certaine façon, parce que finalement ça serait la sécurité. Pourquoi sinon? Est-ce que c'est parce que physiquement j'ai peur de... Ou est-ce que c'est la liberté, la sécurité des biens, ou je ne sais pas quoi. Mais pourquoi pas demander d'abord, pourquoi pas être soucieux de la possibilité de penser ensemble, enfin voilà, de parler, de penser. Ça, c'est une question. C'est vrai que la demande de sécurité est un symptôme, hein, c'est vrai. C'est un symptôme. Parce qu'on pourrait imaginer, alors, s'il y avait bien une période, quelques-uns à l'avoir connu, où il s'agissait d'abord de parler, avant, c'est quand même bien la période de 68. Là, celui qui voulait parler, il pouvait parler. Mais c'était, je pense que c'est pas seulement... c'est sérieux, finalement. Il y a donc des moments où ce que les gens demandent, c'est de parler. Ce qui n'est pas pareil que de demander la sécurité, effectivement. C'est vrai, c'est... Oui. Oui, c'est tout à fait vrai.
Vous avez parlé des sciences humaines.
Oui.
Et j'ai 72 ans, donc c'est un moment que j'ai connu. J'étais travailleur social dans les années 70.
Oui.
Donc, en tant qu'assistante sociale, voilà. Et on avait créé... on était dans des institutions différentes, les assistants sociaux, il y avait surtout les femmes. Et on avait créé, en dehors de notre travail, des groupes de réflexion.
Des groupes, oui.
Sur des petites pensées, hein.
Oui, oui.
Je sais pas si je suis dans le sujet, mais
tout
des groupes de réflexion où on se disait, bon, qu'est-ce qu'on nous demande, en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on pourrait faire autrement? Et voilà, et on échangeait entre nous sur des groupes informels où notre hiérarchie n'était pas forcément au courant, etc. Mais c'était quand même des groupes
tout à fait.
Où tout pouvait émerger. Des idées, et c'était assez riche. Mais maintenant, et depuis un certain temps, les travailleurs sociaux, enfin, moi j'ai une sœur qui est éducatrice, c'est du process, quoi.
Oui, c'est du protocole.
C'est un gamin qui va mal, faut un croix dans une case.
Enfin, oui.
Il y a quand même une coercition, enfin, je ne sais pas si les gens entendent ça autour d'eux, mais
dans
toutes les institutions, enfin, c'est terrible, quoi. Donc on ne demande pas aux gens... comme ça, d'avoir des idées, de réfléchir, etc. Pas du tout. On leur demande d'appliquer, puis s'ils n'appliquent pas, ça va plus.
Oui.
Ils se taisent ou ils vont ailleurs. Enfin, moi, je le ressens ça extrêmement fort.
Tout à fait d'accord.
Dans ces années-là, il y avait beaucoup plus de possibilités, sans être révolutionnaire, mais des groupes où on réfléchissait sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on nous demande professionnellement, qu'est-ce qu'on évalue chez les gens et pourquoi. Voilà, j'avais envie de dire ça.
Oui, vous avez raison.
Je pense que c'est ce dont se plaignent les infirmiers.
Oui, tout à fait.
On
était là ensemble.
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est ce que vous dites, enfin, moi je suis absolument d'accord, mais ce que vous dites est tout à fait conforme, enfin, fidèle à ce qui anime Foucault, en un sens. Je crois vraiment.
On est toujours sur le sens qu'on fait plutôt que d'être dans une application tout le temps de
Oui. Y compris en médecine.
Ça veut dire que tu pensais, donc là on demande de penser.
Oui, non, mais je sais bien justement. C'est dramatique.
Oui.
C'est dramatique. Enfin, ce qui se passe actuellement, c'est.
Bah,
les gens ne demandent pas ça, c'est pas possible.
Et une perte de sens.
Les gens peuvent pas aller sans un rendez-vous, voir un travailleur social, voir un service de soins, il faut s'inscrire avant, qu'est-ce que c'est que cette société?
Et là, on devient un profil, quoi. Voilà. Devient... Oui, oui.
Et après, on va tout nous rattraquer en disant, mais c'est dangereux, il y a ce risque de s'y faut arrêter, quoi.
Ah ben c'est, vous savez, c'est les portes qui claquent dans, dans les couloirs de la prison. Là, c'est vraiment le bruit des portes qui claquent.
Oui.
Et là aussi, le numérique.
Ah ben, numérique
multiplie à la puissance N. Ouais.
Et ça arrive dans l'éducation, hein,
oui, tout à
partout,
fait, oui.
Dans tous les domaines. Hein.
En fait, l'espace de liberté, ça va être la prison. Alors.
À la fin de la présentation, c'est que vous, en fait, vous, il y a ouvert un changement.
Oui. Oui, je pense qu'il pense à deux choses à ce moment-là. On est en 73, donc c'est plus les groupes information prison, puisqu'ils sont, ils se sont auto-dissous déjà. Mais je pense que c'est sur le modèle des groupes. Il ne veut pas dire les associations ou les partis, etc. Je pense qu'il a gardé le signifiant groupe parce que c'est ce qu'il a pratiqué. Mais je pense qu'il imagine des... aussi que ça, c'est aussi une indication ouverte sur des possibilités de rencontre. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça.
Est-ce qu'il y aurait un parallèle à faire avec une autre organisation proposée par la formation de gauche dans l'ordre économique, c'est-à-dire autogestion ? Il y aurait une espèce de mise à plat,
oui.
Organisation horizontale de discussion, investissement des individus.
Oui, oui. Oui.
Ça peut être des groupes Tupperware, hein. Des groupes de qualité.
Le seul problème, c'est que, enfin, pourquoi pas ? C'est-à-dire, pourquoi pas ? Après tout, il y a eu, d'ailleurs, sur ce modèle, il y a eu très vite le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, le GISTI, qui s'est constitué très vite dans la foulée du groupe information prison. Qui était un groupe d'information aussi au départ. Et puis il y a eu aussi très vite aussi les groupes du MLAC, etc. Donc du coup, et pourquoi pas dans les questions de production, mais je pense qu'ils ont été, enfin, ils n'ont pas résisté à la logique générale, c'est-à-dire même l'IP s'est fait briser. C'est compliqué là, mais ça ne veut pas dire que le chantier. Il faudra. Après tout, il y a aujourd'hui des lieux où les gens produisent dans des modalités un peu différentes que les modalités du capital hard, quoi. Oui.
Encore une question et puis on achève. Non ?
Oui. Oui. Sur la prison, quand même, il est surprenant qu'on ne fasse pas plus de progrès et qu'on continue à surdensifier les prisons.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Comment se fait-il qu'on en soit ?
Je pense, j'y réfléchissais, je ne voulais pas le coût des places, parce qu'ils annoncent 15 000 places, quoi, carrément. Donc, ça reste... Moi ça me terrorise, enfin, vous voyez. Mais je pense aussi que la surpopulation fait partie de la dimension punitive de Je me souviens d'un des jeunes que j'avais, il est passé... Moi, j'étais au quartier des mineurs, donc ça va encore à peu près, si vous voulez. Mais il est passé chez les majeurs à la fin de l'année, avant de passer son bac. Et il me racontait... Là, ils étaient plusieurs dans la cellule. Et même pour aller aux toilettes, etc., il en était malade physique, organiquement, vous voyez, le gamin. Et je sortais tous les mardis que j'allais... Je sortais de là, dans le bus, j'étais un peu sonné. Oui. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question.
Allez-y, allez-y.
La France, elle a été condamnée plusieurs fois. Au niveau européen, la situation en prison. C'est pareil, il n'y a plus de prévention.
Oui.
Le travail social, elle est où la prévention?
Non.
Elle existait quand même.
Oui.
Le tissu associatif, ça c'était la
prévention. Les éducateurs de rue,
c'est plus,
oui.
Voilà, c'est plus facile.
Sans compter combien beaucoup de gens qui sont ont des problèmes psychologiques, psychiques,
absolument,
graves,
oui.
En prison.
Oui.
Au lieu de les hospitaliser.
La maladie mentale.
Bien évidemment.
Oui. Moi j'ai vu passer des gens qui étaient manifestement sous médicaments. Et qui venait au cours chez les adultes, là, les pauvres gens.
La sectorisation psychiatrique.
Oui.
Au niveau de la psychiatrie, il y a eu aussi, à cette période-là, il y a eu toute une démarche extrêmement intéressante.
Oui.
On a ouvert.
Bien sûr. Bien sûr.
Dans les années 70, c'était très,
ouais.
Très fort.
Ouais.
Alors, on va peut-être clore ce groupe. Voilà. Merci à tous.
Merci.